Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 5, chapitre 2. Le combat semble fini en Allemagne. Eck le ranime. Débat entre Eck et Karlsruhe. La question du pape. Luther répond. Sa foi et son courage. Refus du duc George. Opposition de l'évêque. Mosellanus et Erasme. Tandis que le combat commençait au dehors de l'Empire, il paraissait presque cesser au dedans. Les plus fougueux soldats de Rome, des moines franciscains de Jüterbock, qui avaient imprudemment attaqué Luther, s'étaient hâtés, après une vigoureuse réponse du réformateur, de rentrer dans le silence. Les partisans du pape se taisaient. Tetzel était hors de combat. Les amis de Luther le conjuraient de ne pas continuer la lutte, et il leur avait promis. Les thèses commençaient à être oubliées. Cette perfide paix frappait d'impuissance la bouche éloquente du réformateur. La réformation paraissait arrêtée. Mais, dit plus tard Luther, en parlant de cette époque, les hommes projetaient des choses vaines, car le Seigneur s'est réveillé pour juger les peuples. « Dieu ne me conduit pas, dit-il ailleurs. Il me pousse, il m'enlève. Je ne suis pas maître de moi-même, je voudrais vivre dans le repos, mais je suis précipité au milieu du tumulte et des révolutions. » Eck, le scolastique, l'ancien ami de Luther, l'auteur des obélisques, fut celui qui recommença le combat. Il était sincèrement attaché à la papauté, mais il semble avoir été dépourvu de véritables sentiments religieux et avoir fait partie de cette classe d'hommes, trop nombreux en tout temps, qui considèrent la science et même la théologie et la religion comme des moyens de se faire un nom dans le monde. La vaine gloire se cache sous la soutane du pasteur comme sous l'armure du guerrier. Eck s'était appliqué à l'art de la dispute selon les règles des scolastiques et était passé maître dans ce genre de lutte, tandis que les chevaliers du Moyen-Âge et les guerriers du siècle de la Réformation cherchaient la gloire dans les tournois. Les scolastiques la cherchaient dans les disputes syllogistiques dont les académies offraient souvent le spectacle. Eck, rempli d'une haute idée de lui-même, fier de ses talents, de la popularité de sa cause et des victoires qu'il avait remportées dans 8 universités de Hongrie, de Lombardie et d'Allemagne, désirait ardemment avoir l'occasion de déployer contre le réformateur ses forces et son adresse. Ce petit moine qui avait cru, tout à coup, jusqu'à devenir géant, ce Luther que jusqu'alors personne n'avait pu vaincre, offusquait son orgueil et excitait sa jalousie. Peut-être en recherchant sa propre gloire, Eck perdrait-il Rome, mais la vanité scolastique ne se laisse pas arrêter par une telle considération. Les théologiens, comme les princes, ont su, plus d'une fois, immoler l'intérêt général à leur gloire particulière. Nous allons voir quelles circonstances fournirent au docteur d'Ingolstadt le moyen d'entrer en lice avec son important rival. Le zélé mais trop ardent Karlsruhe s'entendait encore avec Luther. Ces deux théologiens étaient surtout unis par leur attachement à la doctrine de la grâce et par leur admiration pour saint Augustin. Karlsruhe, enclin à l'enthousiasme et possédant peu de sagesse, n'était pas un homme que l'adresse et la politique d'un Miltitz pussent arrêter. Il avait publié contre les obélisques du docteur Eck des thèses où il défendait Luther et la foi qui leur était commune. Eck avait répondu, et Karlsruhe ne lui avait pas laissé le dernier mot. Le combat s'était échauffé. Eck, désireux de saisir une occasion si favorable, avait jeté le gant à Karlsruhe. L'impétueux Karlsruhe l'avait relevé. Dieu se servit des passions de ces deux hommes pour accomplir ses desseins. Luther n'avait pris aucune part à ces débats, et cependant il devait être le héros de la bataille. Il est des hommes que la force des choses ramène toujours sur la scène. On convint que Leipzig serait le lieu de la discussion. Telle fut l'origine de cette dispute de Leipzig, devenue si célèbre. Eck se souciait assez peu de combattre Karlsruhe et même de le vaincre. C'était à Luther qu'il en voulait. Il mit donc tout en œuvre pour l'attirer sur le champ de bataille et publia à cet effet 13 thèses qu'il dirigea contre les doctrines principales déjà professées par le réformateur. La 13e était ainsi conçue. nous nions que l'Église romaine n'ait pas été élevée au-dessus des autres églises avant le temps du pape Sylvestre, et nous reconnaissons en tout temps, comme successeur de Saint-Pierre et vicaire de Jésus-Christ, celui qui a occupé le siège de Saint-Pierre et qui a eu sa foi. Sylvestre vivait du temps de Constantin le Grand. Eck niait donc par cette thèse que la primauté dont Rome jouissait lui eût été donnée par cet empereur. Luther, qui avait consenti, non sans quelque peine, à garder désormais le silence, fut vivement ému à la lecture de ses propositions. Il reconnut que c'était à lui qu'on en voulait et sentit qu'il ne pouvait avec honneur éviter le combat. « Cet homme, dit-il, nomme Karlstadt son antagoniste et en même temps il se jette sur moi. Mais Dieu règne, il sait ce qu'il veut faire résulter de cette tragédie. Ce n'est ni du docteur Eck ni de moi qu'il sera question. Le dessein de Dieu s'accomplira. Grâce à Eck, cette affaire qui jusqu'à présent n'a été qu'un jeu deviendra à la fin sérieuse et portera un coup funeste à la tyrannie de Rome et du pontife romain. » Rome elle-même a déchiré l'accord. Elle a fait plus. En donnant de nouveau le signal du combat, elle a engagé la lutte sur un point que Luther n'avait pas encore directement attaqué. C'était la primauté du pape que le docteur Eck signalait à ses adversaires. Il suivait ainsi le dangereux exemple que Tetzel avait déjà donné. Rome appela les coups de l'athlète, et si elle laissa dans le gymnase des membres palpitants, c'est qu'elle avait attiré elle-même sur sa tête son bras redoutable. La suprématie pontificale, une fois renversée, tout l'échafaudage romain s'écroulait. Le plus grand danger menaçait donc la papauté, et cependant, ni Miltitz ni Cajetan ne faisaient rien pour empêcher cette nouvelle lutte. S'imaginait-il que la Réformation serait vaincue? Ou était-il frappé de cet aveuglement qui entraîne les puissants dans leur chute? Luther, qui avait donné un rare exemple de modération en gardant si longtemps le silence, répondit sans crainte à la provocation de son antagoniste. Il opposa aussitôt de nouvelles thèses aux thèses du docteur Eck. La dernière était en ces termes. « C'est par de pitoyables décrétales des pontifes romains, composées il y a 400 ans et moins, que l'on prouve la primauté de l'Église de Rome. » Mais cette primauté a contre elle l'histoire digne de foi de 1100 années, les déclarations des Saintes Écritures et les conclusions du Concile de Nicée, le plus saint de tous les conciles. « Dieu sait, écrivit-il en même temps à l'électeur, que ma ferme intention était de me taire et que j'étais joyeux de voir enfin ce jeu terminé. J'ai si fidèlement observé le pacte conclu avec le commissaire du pape, que je n'ai pas répliqué à Sylvestre Prierias, malgré les insultes des adversaires et les conseils de mes amis. Mais maintenant, le docteur Eck m'attaque, et non seulement moi, mais encore toute l'université de Wittenberg. Je ne puis permettre que la vérité soit ainsi couverte d'opprobre. » En même temps, Luther écrivait à Karlstadt. « Je ne veux pas, excellent André, que vous entriez dans cette querelle, lui dit-il, puisque c'est à moi qu'il en veut. Je laisserai là avec joie mes travaux sérieux pour m'occuper des jeux de ces adulateurs du pontife romain. » Puis, apostrophant son adversaire, « Maintenant donc, mon cher Eck, lui crie-t-il de Wittenberg à Ingolstadt, avec un superbe dédain, homme fort, sois courageux et ceint ton épée sur ta cuisse. Si je n'ai pu te plaire comme médiateur, peut-être te plairai-je davantage comme antagoniste, non pas que je me propose de te vaincre, mais parce qu'après tous les triomphes que tu as remportés en Hongrie, en Lombardie, en Bavière, si du moins nous devons t'en croire, je te fournirai l'occasion d'obtenir le nom de triomphateur de la Saxe et de Misny, en sorte que tu seras à jamais salué du titre glorieux d'Auguste. » Tous les amis, comment le pauvre moine de Wittenberg ose-t-il s'en prendre à ce géant qui depuis des siècles a écrasé tous ses ennemis? Les courtisans tremblent à la cour de l'électeur. Spalatin, le confident du prince et l'intime ami du réformateur, est rempli d'anxiété. Frédéric est inquiet. Le glaive même de chevalier du Saint-Sépulcre dont il a été armé à Jérusalem ne suffirait pas à cette guerre. Luther seul ne s'épouvante pas. L'Éternel, pense-t-il, le livrera entre mes mains. Il trouve dans la foi qu'il anime de quoi fortifier ses amis. « Je vous en supplie, mon cher Spalatin, dit-il, ne vous laissez pas aller à la crainte. Vous savez bien que, si Christ n'était pas pour moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à cette heure eût dû causer ma perte. Dernièrement encore, n'a-t-on pas écrit d'Italie au chancelier du duc de Poméranie que j'avais bouleversé Rome et qu'on ne savait pas comment apaiser le tumulte, en sorte qu'on se proposait de m'attaquer, non suivant les règles de la justice, mais par les finesses romaines. Ce sont les expressions qu'on a employées, c'est-à-dire, je pense, par le poison, les embûches et l'assassinat. Je me modère, et pour l'amour de l'électeur et de l'université, je garde par-devers moi bien des choses que je ferais servir contre Babylone si j'étais ailleurs. Ô mon pauvre Spalatin, il est impossible de parler avec vérité de l'Écriture et de l'Église sans irriter la bête. N'espérez donc jamais me voir en repos, à moins que je ne renonce à la théologie. Si cette affaire est de Dieu, elle ne se terminera pas avant que tous mes amis m'aient abandonné, comme tous les disciples de Christ l'abandonnèrent. La vérité demeurera seule et triomphera par sa droite, et non par la mienne, ni par la vôtre, ni par celle d'aucun homme. Si je succombe, le monde ne périra pas avec moi. Mais, misérable que je suis, je crains de n'être pas digne de mourir pour une telle cause. Rome, écrit-il encore vers le même temps, Rome brûle du désir de me perdre, et moi je me morfonds à me moquer d'elle. On m'assure qu'on a brûlé publiquement à Rome, dans le champ de Flore, un Martin Luther en papier, après l'avoir couvert d'exécrations. J'attends leur fureur. Le monde entier, poursuit-il, s'agite et chancelle. Qu'arrivera-t-il ? Dieu le sait. Pour moi, je prévois des guerres et des désastres. Dieu ait pitié de nous. Luther écrivait lettre sur lettre au duc Georges, afin que ce prince, dans les états duquel Leipzig se trouvait, lui permît de s'y rendre et de prendre part à la dispute, mais il n'en recevait pas de réponse. Le petit-fils du roi de Bohême, Podiebrade, épouvanté par la proposition de Luther sur l'autorité du pape et craignant de voir naître en Saxe les guerres dont la Bohême avait été si longtemps le théâtre, ne voulait pas consentir à la demande du docteur. Celui-ci résolut alors de publier des explications sur cette 13e thèse. Mais cet écrit, loin de persuader le duc Georges, l'affermit au contraire dans sa résolution. Il refusa absolument au réformateur l'autorisation qu'il demandait de disputer, lui permettant seulement d'assister comme spectateur au débat. C'était une grande contrariété pour Luther. Néanmoins, il n'a qu'une volonté, celle d'obéir à Dieu. Il ira, il verra, il attendra. En même temps, le prince, favorisé de tout son pouvoir, la dispute entre Eck et Karlstadt. Georges était dévoué à l'ancienne doctrine, mais il était droit, sincère, ami du libre examen, et il ne pensait pas que toute opinion dût être accusée d'hérésie, par cela seul qu'elle déplaisait à la cour de Rome. D'ailleurs, l'électeur insistait auprès de son cousin, et Georges, affermi par les paroles de Frédéric, ordonna que la dispute eût lieu. L'évêque Adolphe de Merseburg, dans le diocèse duquel Leipzig était situé, comprit mieux que Miltitz et que Cajetan le danger d'abandonner des questions si importantes aux chances d'un combat singulier. Rome ne pouvait exposer à de tels hasards le fruit du travail de plusieurs siècles. Tous les théologiens de Leipzig, non moins alarmés, suppliaient leur évêque d'empêcher la dispute. Adolphe fit donc au duc Georges les représentations les plus énergiques. Le duc lui répondit avec beaucoup de bon sens « Je suis surpris de voir un évêque avoir tant d'horreur pour l'antique et louable coutume de nos pères d'examiner les questions douteuses dans les choses de la foi. Si vos théologiens se refusent à défendre leur doctrine, mieux vaudrait avec l'argent qu'on leur donne entretenir de vieilles femmes et de petits-enfants qui seraient au moins filés et chantés. » Cette lettre fit peu d'effet sur l'évêque et sur ses théologiens. L'erreur a une conscience secrète qui lui fait craindre qu'on examine, même quand elle parle le plus de libre examen. Après s'être avancée avec imprudence, elle se retire avec lâcheté. La vérité ne provoque pas, mais elle tient ferme. L'erreur provoque et s'enfuit. La prospérité de l'université de Wittenberg était d'ailleurs pour celle de Leipzig un objet de jalousie. Les moines et les prêtres de Leipzig suppliaient le peuple du haut de la chaire de fuir les nouveaux hérétiques. Ils déchiraient Luther, ils le représentaient ainsi que ses amis sous les couleurs les plus noires, afin de fanatiser la classe ignorante contre les docteurs de la Réformation. Tetzel, qui vivait encore, se réveilla pour crier du fond de sa retraite « C'est le diable qui pousse à ce combat !» Tous les professeurs de Leipzig n'étaient pourtant pas dans les mêmes sentiments. Quelques-uns appartenaient à la classe des indifférents, toujours prêts à rire des fautes des deux parties. De ce nombre était le professeur de grec, Pierre Mosellanus. il se soucie assez peu de Jean Eck, de Karlstadt et de Martin Luther. Mais il se promettait un grand divertissement de leur lutte. « Jean Eck, le plus illustre des gladiateurs de plumes et des rhodomons, » écrivit-il à son ami Érasme. « Jean Eck, qui, comme Socrate dans Aristophane, méprise les dieux mêmes, en viendra aux mains dans une dispute avec André Karlstadt. Le combat finira par de grands cris. Dix démocrites y auront de quoi rire. » Le timide Érasme, au contraire, était effrayé à l'idée d'un combat, et sa prudence craintive eût voulu arrêter la dispute. « Si vous vouliez en croire Érasme, écrivit-il à Mélenchon, vous vous appliqueriez plus à faire fleurir les bonnes lettres qu'à en poursuivre les ennemis. Je crois que de cette manière nous avancerions davantage. Surtout, n'oublions pas dans la lutte que nous devons vaincre non seulement par l'éloquence, mais aussi par la modestie et la douceur. Ni les alarmes des prêtres, ni la prudence des pacificateurs ne pouvaient plus prévenir le combat. Chacun prépara ses armes. » Livre 5, chapitre 3. Arrivée de Eck et des Wittembergeois à Leipzig, Amsdorf, les étudiants, placard de l'évêque, Eck et Luther, la Plessenburg, publicité et juge de la dispute. Eck arriva le premier au rendez-vous. Le 21 juin, il entra dans Leipzig avec Polyandre, jeune homme qu'il avait amené d'Ingolstadt pour écrire la relation de la dispute. On rendit toutes sortes d'honneurs au docteur scolastique. Revêtu d'habits sacerdotaux et à la tête d'une nombreuse procession, il parcourut les rues de la ville le jour de la fête Dieu. Chacun voulait le voir. Tous les habitants étaient pour lui, dit-il lui-même. Pourtant, ajoute-t-il, le bruit courait dans toute la ville que je succomberai dans ce combat. Le lendemain de la fête, le vendredi 24 juin, jour de la Saint-Jean, les Wittembergeois arrivèrent. Karlstadt, qui devait combattre le docteur Eck, était seul dans son char et précédait tous les autres. Le duc Barnim de Poméranie, qui étudiait alors à Wittenberg et qui avait été élu recteur de l'université, venait ensuite dans une voiture découverte. À ses côtés étaient assis les deux grands théologiens, les pères de la Réformation, Mélenchon et Luther. Mélenchon n'avait pas voulu quitter son ami. « Martin, le soldat du Seigneur, avait-il dit à Spalatin, a remué ce marais fétide. Mon esprit s'indigne quand je pense à la honteuse conduite des théologiens du pape. Soyez fermes et demeurez avec nous. » Luther lui-même avait désiré que son acate, comme on l'a appelé, l'accompagnât. Jean Lange, vicaire des Augustins, plusieurs docteurs en droit, quelques maîtres S.A.R., deux licenciés en théologie et d'autres ecclésiastiques parmi lesquels on remarquait Nicolas Amsdorf fermer la marche. Amsdorf, issu d'une famille noble de la Saxe, faisant peu de cas de la carrière brillante à laquelle sa naissance eût pu l'appeler, s'était consacré à la théologie. Les thèses sur les indulgences l'avaient amené à la connaissance de la vérité. Il avait fait aussitôt une courageuse profession de foi. Doué d'une âme forte et d'un caractère véhément, Amsdorf poussa souvent Luther, déjà assez prompt de sa nature, à des actes peut-être imprudents. Né dans un rang élevé, il ne craignait pas les grands, et il leur parla quelquefois avec une liberté qui approchait de la rudesse. « L'évangile de Jésus-Christ, disait-il un jour devant une noble assemblée, appartient aux pauvres et aux affligés, et non pas à vous, princes, seigneurs et courtisans qui vivaient sans cesse dans les délices et dans la joie. » Mais ce n'était pas là tout le cortège de Wittenberg. Des étudiants accompagnaient en grand nombre leurs maîtres. Eck prétend qu'il y en avait jusqu'à 200. Armés de piques et de hallebardes, ils entouraient les chars des docteurs, prêts à les défendre et fiers de leur cause. Tel était l'ordre dans lequel le cortège des réformateurs arrivait à Leipzig. Comme il avait déjà passé la porte de Grima, et qu'il se trouvait devant le cimetière de Saint-Paul, une roue du char de Karlstadt se brisa. L'archidiacre, dont l'amour-propre jouissait d'une entrée aussi solennelle, tomba dans la boue. Il ne se fit pas de mal, mais il fut obligé de gagner à pied le lieu de sa demeure. Le char de Luther, qui suivait celui de Karlstadt, le devança rapidement et amena le réformateur sain et sauf devant son logis. Le peuple de Leipzig, rassemblé pour voir l'entrée des champions de Wittenberg, vit dans cet accident un fâcheux présage pour Karlstadt, et bientôt on conclut dans toute la ville qu'il succomberait dans le combat, mais que Luther y serait vainqueur. Adolphe de Merseburg ne demeurait pas oisif. Aussitôt qu'il apprit l'approche de Luther et de Karlstadt, et avant même qu'ils fussent descendus de leur voiture, il fit afficher à toutes les portes des églises la défense de commencer la dispute sous peine d'excommunication. Le duc Georges, étonné de cette audace, enjoignit au conseil de la ville de faire lacérer le placard de l'évêque et fit jeter en prison le hardi entremetteur qui avait osé exécuter cet ordre. Georges s'était en effet rendu lui-même à Leipzig. Il était accompagné de toute sa cour, entre autres ce Jérôme Emser, chez qui Luther avait passé à Dresde une soirée fameuse. Georges fit aux combattants des deux parties les cadeaux d'usage. Le duc, dit Eck avec orgueil, me fit présent d'un beau cerf, et il ne donna à Karlstadt qu'un chevreuil. À peine Eck eut-il appris l'arrivée de Luther qu'il se rendit chez le docteur. « Et quoi ? Lui dit-il. J'ai ouï dire que vous vous refusez à disputer avec moi ?» Luther. « Comment disputerai-je, puisque le duc me le défend ?» Eck. « Si je ne puis disputer avec vous, je me soucie fort peu d'en venir aux mains avec Karlstadt. C'est pour vous que je suis venu ici. » Puis, après un moment de silence, il ajouta « Si je vous procure la permission du duc, paraîtrez-vous sur le champ de bataille ?» Luther, avec joie, « Procurez-la-moi, et nous combattrons. » Eck se rendit aussitôt chez le duc. Il chercha à dissiper ses craintes. Il lui représenta qu'il était certain de la victoire, et que l'autorité du pape, loin de souffrir de la dispute, en sortirait couverte de gloire. « C'est au chef qu'il faut s'en prendre. Si Luther demeure debout, tout demeure debout. S'il tombe, tout tombe. » Georges accorda la permission demandée. Le duc avait fait préparer une grande salle dans son palais nommé la Plessenburg. On y avait élevé deux chaires, en face l'une de l'autre. Des tables y étaient placées pour les notaires, chargés de coucher par écrit la dispute, et des bancs pour les spectateurs. Les chaires et les bancs étaient recouverts de belles tapisseries. À la chaire du docteur de Wittenberg était suspendu le portrait de Saint-Martin dont il portait le nom. À celle du docteur Eck, le portrait du chevalier Saint-Georges. « Nous verrons, dit le présomptueux Eck en regardant cet emblème, si je ne me mettrai pas à cheval sur mes ennemis. » Tout annonçait l'importance qu'on attachait au combat. Le 25 juin, on se réunit au château pour s'entendre sur l'ordre qu'on devait suivre. Eck, qui avait plus de confiance en ses déclamations et ses gestes qu'en ses arguments, s'écria « Nous disputerons librement d'abondance, et les notaires ne coucheront point nos paroles par écrit. » Karlstadt. Il a été convenu que la dispute serait écrite, publiée et soumise au jugement de tous. Eck. Écrire tout ce qui est dit, c'est alanguir l'esprit des combattants et faire traîner la bataille. Ça n'est fait alors de cette verve que demande une dispute animée. N'arrêtez pas le torrent des paroles. Les amis du docteur Eck appuyèrent sa demande. Karlstadt persista dans ses objections, le champion de Rome dut céder. Eck. Soit, on écrira, mais du moins la dispute écrite par les notaires ne sera pas publiée avant qu'elle ait été soumise à l'examen de certains juges. Luther. La vérité du docteur Eck et des Eckiens craint donc la lumière ? Eck. Il faut des juges. Luther. Et quels juges ? Eck. Quand la dispute sera finie, nous nous entendrons pour les nommer. Le but des partisans de Rome était évident. Si les théologiens de Wittenberg acceptaient des juges, ils étaient perdus, car leurs adversaires étaient sûrs à l'avance de ceux auxquels on s'adresserait. S'ils les refusaient, on les couvrirait de honte, en répandant partout qu'ils craignaient de se soumettre à des juges impartiaux. Les réformateurs voulaient pour juges non tels ou tels individus dont l'opinion était arrêtée d'avance, mais la chrétienté tout entière. C'était un suffrage universel qu'ils en appelaient. Du reste, peu leur importe qu'ils soient condamnés, si, en plaidant leur cause en présence du monde chrétien, ils ont amené quelques âmes à la lumière. Luther, dit un historien romain, demandait pour juge tous les fidèles, c'est-à-dire un tribunal tel qu'il n'y aurait pas eu d'urne assez vaste pour contenir ses votes. On se sépara. Voyez quelle ruse ils emploient, se dirent les uns aux autres Luther et ses amis. Ils veulent sans doute demander pour juge le pape ou les universités. En effet, le lendemain matin, les théologiens de Rome envoyèrent à Luther un des leurs chargé de lui proposer pour juge le pape. « Le pape, dit Luther, comment pourrais-je l'admettre ?»« Gardez-vous, s'écrièrent tous ses amis, d'accepter des conditions aussi injustes. » Eck et les siens consultèrent de nouveau. Ils renoncèrent au pape et proposèrent quelques universités. « Ne nous enlevez pas la liberté que vous nous avez auparavant accordée, répondit Luther. « Nous ne pouvons vous céder sur ce point, répliquèrent-ils. « Eh bien, s'écria Luther, je ne disputerai pas. » On se sépare et toute la ville s'entretient de ce qui vient de se passer. Luther, s'écrient partout les Romains, Luther ne veut pas accepter la dispute. Il ne veut reconnaître aucun juge. On commente, on torture ses paroles, on s'efforce de les représenter de la manière la plus défavorable. Quoi, vraiment, il ne veut pas disputer, disent les meilleurs amis du réformateur. Ils se rendent auprès de lui et lui expriment leurs alarmes. « Vous refusez le combat, s'écrie-t-il. Votre refus va faire rejaillir une honte éternelle sur votre université et sur votre cause. » C'était attaquer Luther par son côté le plus sensible. « Eh bien, répondit-il, le cœur rempli d'indignation, j'accepte les conditions qu'on m'impose, mais je me réserve le droit d'appel et je récuse la cour de Rome. »